Bonjour, nous sommes le lundi 15 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
La semaine dernière, je recevais le patron de la Bourse de Bruxelles, une place boursière qui cherche à accueillir de nouvelles entreprises. Et il y en a bien une qui caresse l'idée d'une introduction en bourse depuis quelques années, c'est iCare, la société montoise de maintenance industrielle prédictive. Je reçois ce matin Fabrice Brion, le CEO et cofondateur de iCare. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
On va parler avec vous du financement des entreprises et peut-être allez-vous nous dire si et quand vous entrerez en bourse. Il sera aussi question de l'industrialisation de l'Europe face à la Chine. Et puis, à quelques semaines des élections, vous aurez sans doute quelques suggestions ou doléances à adresser au monde politique. Je suis Laurent Fabry, Fabrice Brion est mon invité. Bienvenue dans le brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
Avant d'en venir à vous, si vous voulez bien, Fabrice, commençons par ce regain de tension très vif au Moyen-Orient ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé une attaque contre Israël à l'aide de drones et de missiles de croisière. La quasi-totalité des engins envoyés depuis le sol iranien ont été interceptés par le bouclier anti-aérien israélien avec l'aide de ses alliés dans la région. Cette attaque constituait une riposte à une frappe aérienne israélienne contre le consulat iranien à Damas. J'ai interrogé Tanguy Streuil, professeur de politique internationale à l'UC Louvain, hier soir. Pour lui, l'Iran n'avait simplement pas le choix.
Non, à partir du moment où on attaque un bâtiment officiel diplomatique, la réaction ne pouvait plus se faire attendre d'un point de vue iranien, parce qu'il y avait aussi une question de prestige et de réputation. Et donc, un État, s'il se fait attaquer, il est clair qu'il y a des chances qu'il réponde. C'est ce qu'on appelle un peu la dialectique des volontés. Il y en a un qui agit, l'autre va potentiellement réagir.
Alors, depuis, l'Iran a fait savoir qu'il estimait que l'incident est clos, pour autant qu'Israël ne surréagisse pas. Est-ce que tout risque d'escalade est finalement écarté? La réponse de Tanguy Streuil.
D'une certaine façon, oui, même si on devrait attendre la réaction israélienne. Maintenant, il faut bien réaliser qu'on savait que l'attaque aurait lieu, puisque les Iraniens avaient prévenu, on va dire, la communauté internationale. Et on a bien vu qu'il y a de nombreux pays qui sont intervenus, ce qui démontre bien qu'il y avait une volonté, évidemment, entre guillemets, de laisser les Iraniens réagir par rapport à leur réputation, prestige, etc. Mais veiller aussi à ce que Israël ne réponde pas, parce que sinon, à ce moment-là, on rentre vraiment dans une escalade. Et ça, il faut évidemment à tout prix éviter. Et je crois que là, la diplomatie américaine va aussi jouer un rôle très important pour faire comprendre aux Israéliens que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans un conflit plus important, sachant que les Américains sont absolument pas chauds pour rentrer dans un conflit avec les Iraniens.
Je le disais en introduction, Fabrice, ce n'est pas un secret. iCare se prépare à l'éventualité d'un jour s'introduire en bourse. Je reste évidemment volontairement très prudent. Enfin, cela fait pas mal de temps que vous évoquez l'idée. Alors, comment voyez-vous la bourse? C'est un must ou un moyen de financement parmi tant d'autres?
Par rapport à iCare, c'est un plan qu'on a décidé depuis 2021. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'opération Eau Rouge, comme le célèbre virage du circuit de Francorchamps qui fait la différence entre les amateurs et les pilotes. Et c'est un plan en deux parties, avec une première partie qui s'est déroulée en septembre 2022, qui est une levée de fonds privée, et une deuxième partie qui est une introduction en bourse qui se déroulera, on l'espère, dans les années qui viennent, le contexte économique et de la guerre en Ukraine ayant retardé nos plans par rapport à l'année 2023. Plus généralement, oui, je pense que la bourse est un bon moyen de financer les entreprises, mais aussi un bon moyen d'irriguer l'économie, puisque quand on compare l'Europe et en général les sociétés technologiques dans l'Union européenne, aux Américains, à la Chine, à d'autres ensembles économiques, effectivement, on est en retard et je pense que cette aversion à la bourse en Europe fait partie de ce retard. Retard pour le financement des entreprises, bien sûr, retard pour les plus-values du petit investisseur qui va investir ses économies en bourse plutôt que simplement en laissant son argent dormir sur un compte en banque.
Est-ce qu'il manque d'incitants, du coup, pour que les entreprises et les investisseurs, justement, se tournent plus facilement vers la bourse ?
Oh, je ne pense pas qu'il faille des incitants. Je pense que c'est surtout dans la tête, docteur. Je pense qu'il faut d'abord démythifier la bourse et ensuite, comme je l'ai dit dans un post récemment, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et c'est vrai qu'en Europe, on a vite tiré sur les quelques entreprises qui ont été des crashs boursiers. On se souvient en Belgique sans doute de l'Ernaut et Ospi. Mais à côté de ça, on ne voit pas toutes les entreprises technologiques en particulier qui font des performances exceptionnelles en bourse.
Jeudi prochain, Enrico Letta, l'ancien Premier ministre italien, présentera son rapport sur l'avenir du marché intérieur. Et son constat risque d'être sans appel. L'économie européenne prend du retard, un retard considérable par rapport à ses concurrents américains et chinois. Fabrice, vous partagez assez largement l'avis d'Enrico Letta. Il y a vraiment urgence pour relancer l'économie européenne.
Oui, je partage l'avis sur le fond, sans aucun doute. Sur la forme, on tombe encore dans les travers européens. Un rapport, trop tard, trop peu. Qu'est-ce qui en suivra? On ne sait pas bien. Je pense que quiconque voyage en Asie, aux États-Unis, même en Inde, même au Brésil, depuis 4 ans, se rend compte de la transformation complète de ces économies post-Covid. Et on a effectivement une économie européenne qui a plus de mal à se transformer, qui dépend énormément de la Chine pour ses fournitures, qui dépendait beaucoup de la Russie pour son énergie et qui dépend des États-Unis pour sa défense. Donc on est dans une situation assez compliquée, mais je pense que c'est le moment où on doit se prendre en main et arrêter de compter sur les autres.
Encore une chose à ce sujet, le groupe belge Futero, que vous connaissez bien à mon avis, a annoncé la semaine dernière des investissements et un partenariat important pour sa nouvelle usine, une usine implantée en Normandie et pas en Wallonie comme le souhaitait Futero. Mais le projet s'est heurté à l'incurie de la région Wallonne qui n'a pas pu accueillir cet investissement de 500 millions d'euros tout de même. Qu'est-ce que ça vous inspire, Fabrice ?
Oh, ben je pense que globalement en Europe, mais en Wallonie en particulier, on doit mieux équilibrer l'économie entre le primaire, le secondaire et le tertiaire. On a trop visé sur le tertiaire. On l'a vu il y a quelques mois avec la crise des agriculteurs. On doit avoir plus d'agriculture, avoir plus d'économie primaire et aussi plus d'industrie, donc d'économie secondaire. Et donc ce rééquilibrage doit avoir lieu de différentes manières, par les investissements, par la facilitation, la simplification des processus et par aussi le support à ces activités. Oui.
On vient de parler du retard que prend l'économie européenne face à ses concurrents américains et chinois. Et les produits chinois, justement, s'emploient de plus en plus à étouffer les autres économies, secteur après secteur. C'était vrai pour l'acier, les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes. Cela le devient aussi pour l'automobile électrique, surtout, ou la pharmacie. Maxime Paquet faisait le point dans un dossier là-dessus ce week-end dans l'Écho.
L'intention première de la Chine, c'est pas tant d'étouffer les concurrents américains ou européens que de relancer sa propre économie. Donc ce que la Chine fait aujourd'hui, c'est investir, voire surinvestir dans des capacités de production qui, pour trouver acheteurs, eh bien, sont déversées sur des marchés étrangers, notamment en Europe, mais pas que. Et ça veut dire que on voit des produits en surplus, en quelque sorte, qui viennent abreuver le marché européen et qui concurrencent directement donc des pans entiers de l'industrie européenne. Mais à nouveau, l'intention initiale de la Chine n'est pas d'étouffer la concurrence. Elle est en premier lieu 5% de croissance et redresser une économie qui aujourd'hui ne va pas bien et dont la consommation intérieure reste faible comparée à l'Europe en tout cas.
La Chine publiera d'ailleurs son PIB cette semaine. Votre réaction, Fabrice, à cette concurrence chinoise, est-ce qu'il y a des formes de distorsion ?
Je suis tout à fait d'accord avec Maxime et je pense que la Chine cherche avant tout à garantir sa propre croissance et qu'au lieu d'essayer de freiner cela ou de réguler cela, nous devrions nous-mêmes en Europe nous en inspirer. Je pense que l'État, que ce soit au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau européen, les besoins en moyens, en financement, sont de plus en plus élevés. Ce que j'entends partout, c'est de dire qu'on va augmenter le pourcentage des impôts. Ce qui me semble beaucoup plus logique, c'est d'augmenter la base taxable. Augmenter la base taxable des entreprises, augmenter la base taxable des concitoyens. Et comment on fait ça? Ça, c'est un mot assez simple, ça s'appelle la croissance. C'est ce qu'on applique en Chine et c'est ce qu'on a l'impression de vouloir bloquer à tout prix ou de mettre des bâtons dans les roues dans tout ce qui pourrait aider la croissance au sein de l'Union européenne. Croissance des entreprises, investissement, aussi dépenses des particuliers. Donc voilà, pour moi, je suis, en tout cas d'un point de vue économique, je suis pour avoir une Europe plus ambitieuse avec des investissements qui favorisent la croissance plutôt que de pleurer sur la croissance des autres et d'essayer de se protéger par des mesures de la croissance des autres.
Mais cette stratégie a quand même du bon en matière de transition écologique, par exemple, sans les panneaux photovoltaïques chinois, bon marché, on n'en sera certainement pas aussi loin en Europe.
Oui, mais je pense qu'on devrait s'en inspirer et que aujourd'hui, dans la fabrication d'un panneau photovoltaïque ou d'une éolienne, le prix de la main-d'œuvre est relativement limité. On n'a pas ce gap de compétitivité sur les salaires qu'on avait il y a 20 ans avec la Chine sur ce type de produits technologiques. Donc je pense que si la Chine, par ses investissements, sait les produire en masse, on doit être capable de les produire en masse à prix compétitif, moyennant bien sûr la taxation du transport pour le CO2 qu'il génère et l'impact qu'il a. On peut être compétitif en Europe.
La BCE, la Banque Centrale Européenne, a maintenu ses taux inchangés à 4% la semaine dernière, la cinquième fois consécutive, mais Christine Lagarde a entrouvert la porte à une baisse des taux en juin prochain, si et seulement si l'inflation poursuivait sa baisse vers les 2%. Fabrice, de votre point de vue d'entrepreneur, est-ce qu'il est temps maintenant pour une baisse des taux?
Ah, je pense, oui. Je pense que les taux hauts favorisent les placements qui ne sont pas dans l'économie qui va générer des innovation, des emplois, etc. Les taux bas favorisent justement plus la prise de risque et l'investissement dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, je pense que par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, par rapport au décrochage de croissance qu'on a en Europe, par rapport au prix de l'énergie suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et par rapport à l'agressivité ou la compétitivité économique de la Chine, on n'a pas le choix. On doit baisser les taux pour favoriser les investissements dans l'économie.
Alors, je ne vous apprends rien, nous sommes à 8 semaines des élections en Belgique. À partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, nous recevrons successivement les présidents des 6 partis francophones représentés au Parlement. C'est sans doute le moment, Fabrice, de leur adresser quelques demandes, suggestions ou quelques doléances, finalement.
Je pense tout d'abord que nous sommes dans une situation, une élection qui est la plus importante, en tout cas certainement depuis que je vote ou depuis que je suis né, à tous les niveaux de pouvoir. On a aujourd'hui des challenges économiques, mais on a aussi des challenges en termes de durabilité, en termes de décarbonation de notre économie, et on a des challenges en termes de sécurité avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et pour l'instant, je ne vois dans aucun programme d'aucun parti, mais en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, de mesures qui soient au niveau de ces élections. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on est sur le Titanic en train de couler et qu'on s'arrange pour le nouveau plan des transats sur le pont. Donc moi je dirais aux hommes politiques, quels qu'ils soient et où qu'ils se présentent, simplifions toutes nos petites choses internes, donc l'agencement des transats sur le pont finalement, et concentrons-nous sur les vrais défis de demain, soyons ambitieux, ayons des politiques claires et des stratégies claires par rapport à l'économie, par rapport à l'environnement et par rapport à la sécurité. Osons rêver loin et fort sur ces trois sujets.
Au programme cette semaine, nous reviendrons certainement sur la vente de la participation de Fosun dans Ageas. Le groupe chinois a cédé le bloc de 9% qu'il détenait à BNP Paribas. Le groupe bancaire français devient ainsi le premier actionnaire d'Ageas. La saison des résultats d'entreprise a repris. Quelques grandes banques américaines au menu cette semaine, Goldman Sachs, Morgan Stanley ou Bank of America. Et puis en Europe, deux des plus grosses capitalisations boursières publieront leurs chiffres. le groupe de luxe LVMH et le producteur de semi-conducteurs ASML. Le procès pénal de Donald Trump démarre aujourd'hui avec la sélection des jurés qui devront juger si l'ancien président est coupable ou non d'avoir tenté d'acheter le silence de Stormy Daniels, une ancienne star du X, juste avant l'élection de 2016. C'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez voter pour le meilleur podcast francophone de Belgique. Alors sur 10 podcasts nominés, il y en a 6 qui ont été produits par l'Écho, dont le Brief évidemment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous mets le lien pour voter en note de cet épisode. Merci infiniment Fabrice d'avoir été mon invité ce matin. Demain c'est Ondine Werres que vous retrouverez dans le Brief. Passez une excellente journée.